l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7, c'est deux rendez-vous par mois.
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
Il est 20h sur les ondes du 101.7 et nous, comme tous les vendredis soirs, on vient vous proposer plein de bonnes ondes. C'est votre moment culturel sur les artistes peintres qui ont marqué diverses époques. Notamment, on a commencé sur le 19e siècle, mais c'est vrai qu'on vagabonde, on voyage aussi à travers les époques. Comme à chaque fois, je suis avec... Carotte, qui vient nous parler avec passion d'un peintre qu'elle a choisi tout particulièrement pour vous ce soir.
Oui, c'est moi, Carotte, la fille qui adore voyager entre les époques. c'est vrai que j'adore aussi, évidemment, toute cette partie du 19e siècle, la fin du 19e siècle, la petite transition. C'est là où il y a eu vraiment une explosion. Et puis après, là, on est dans la fin de la courbe. Donc, on va remonter tout ça. On a parlé la dernière fois de Suzanne Valadon. Et on a du coup évoqué son fils Maurice Utrillo. Et là, on va consacrer cette émission à vous parler de Momo Utrillo, le petit poulbeau de la butte Montmartre qu'on adore et on en redemande encore, parce que je voudrais justement avec toi, Malo, parler à la fin de tout ça de l'importance de l'art dans la préservation du patrimoine, à savoir que s'il n'y avait pas eu notre Momo Utrillo, la butte Montmartre aurait été, je pense, recouverte de barres de chez Bouygues ou autre modernité horrible. Et je pense que c'est grâce à la peinture de Maurice que ce quartier de Montmartre garde son petit air parigot qu'on adore et qui fait aussi la joie des touristes qui se précipitent chaque année dans Paris pour voir ce petit coin de paradis où il y a encore des artistes qui bossent.
Et à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais j'aime bien toujours te demander, donc là, tu as fait le lien, c'est aussi par rapport à notre dernier épisode qu'on va parler de cet artiste Maurice aujourd'hui. Tu viens d'évoquer une deuxième raison, d'où l'importance du patrimoine, de la richesse patrimoine artistique. Est-ce qu'il y a aussi, pourquoi toi, c'est un peintre qui t'a marqué, que tu apprécies, et quelle est peut-être une des œuvres qui, pour toi, est la plus... marquante de son travail.
En fait, on peut pas parler d'œuvre marquante. On parle de la réalité d'un temps donné qui est mis en peinture, c'est-à-dire la butte Montmartre, les guinguettes, le lapin agile, le moulin de la galette, des endroits où lui il est en temps présent, dont il a un amour fou parce qu'il faut avoir la passion de son quartier. Donc en fait, c'est un petit gars de Paris qui a la passion de son quartier. En plus, faut dire que Maurice Utrillo, là où il est unique, c'est que parmi toute la clique des peintres qui se disent Montmartrois, Maurice, il est le seul à être vraiment né à Montmartre, au 8 de la rue du Poteau. Il est né le 26 décembre 1883, le lendemain de Noël. Et je pense que on va dire que sa définition, c'est le peintre de Montmartre et au-delà de ça, c'est le peintre de Paris et de ce temps-là. C'est le peintre de son temps. Donc quand il le fait, il est en plein modernisme, lui. Alors pourquoi je l'adore? C'est parce que moi, je suis plus comme sa mère. Je fais du portrait. Je suis portraitiste. Mais je n'ai pas la pratique du paysage, de la rue, du paysage urbain. Si je puis dire, paysage urbain, c'est-à-dire une rue qui serait aussi jolie qu'un paysage. Et par contre, Maurice, lui, il est le maître là-dedans, avec la petite touche qui va bien et une rapidité d'exécution de ces ambiances de la butte qui laisse pantois.
Alors, quand tu dis le maître, est-ce que vraiment tu pèses tes mots? Enfin, tu penses que de son époque, c'est lui qui était le plus talentueux pour la représentation des paysages?
C'est lui qui a fait comme le paysage qui devient une carte postale. C'est-à-dire, en fait, maintenant, on trouve toutes les vues de Montmartre peintes qui sont sur des cartes postales. 99%, c'est Maurice Utrillo. Donc, il a donné le goût pour Montmartre, le goût pour Paris, le goût pour les petits peintres de rue de la place du Tertre. Le goût pour ces moulins de la galette, les fêtes, enfin, tout ce qu'on peut s'imaginer du Paris de la belle époque qui a perduré jusqu'à un petit peu la guerre de 14. Et donc, lui, il est la représentation de ça. C'est lui qui va nous donner l'image narrative qui, nous, va nous faire fantasmer. C'est pour ça que quand ça arrive aux États-Unis, les Américains, d'un coup, ils ont une image du gay Paris, tu vois. Même, je suppose que les Allemands, quand ils sont arrivés pendant l'occupation allemande, ils avaient une image du gay Paris qui était donnée par ces peintres-là. C'est la peinture qui donne à ces quartiers leur noblesse. Et du coup, Maurice, il a eu ce talent-là de ne pas aller chercher plus loin que le bout de sa rue. Et c'est ça qui en a fait le peintre de la butte de Montmartre et puis un peintre connu dans le monde pour ça. Donc, que du paysage. Et puis en plus, bon, faut raconter que la butte à cette époque, bon, elle a subi les transformations d'une urbanisation juste avant le début de 1900. Mais c'était la Cambrousse. C'était les quartiers avec les vignes et les petits maraîchages de Paris, avant que ce soit englobé par la ville. Donc avec la Commune de Paris, ben après, il y a eu ce fameux Sacré-Cœur qui arrive pour l'expiation des péchés de la Commune de Paris, donc qui est sans arrêt un signe qui dit « faut pas se révolter, il faut pas se révolter, il faut pas se révolter, il faut plutôt prier Jésus ». Bon, d'accord. Mais du coup, concernant tout ce qu'on s'imagine de la joie de vivre à Montmartre, et en plus, c'est complètement fantasmé parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est des pauvres filles blanchisseuses qui montent et qui descendent les escaliers avec des seaux à charbon et de la flotte potable. Non, en fait, c'est pas du tout marrant. Mais l'idée de cette vie, de cette vie nocturne, de cette joie de vivre populaire...
Est née par la peinture.
Et Montmartre est né du pinceau de Maurice Utrillo. C'est comme Bébé qui va à Saint-Tropez. Si Bébé ne s'était pas installé à Saint-Tropez, Saint-Tropez serait toujours le petit village de pêcheurs qu'il était. C'est parce que quelqu'un...
On a fait quelque chose
que d'un coup ça prend toute son importance. Alors il est dit dans la peinture que Maurice Utrillo c'est le peintre maudit. Alors pas du tout. Hein. Donc on va faire un petit tour d'horizon de la façon dont il a.
Cassons les fake news.
En fait il a été élevé par sa grand-mère Madeleine quand elle était à Pierrefitte-sur-Seine, donc c'est l'ancien Saint-Denis, donc en toute proche banlieue parisienne. Et puis après Suzanne qui donc devient un peu riche et reconnue comme on l'a vu, donc elle passe de modèle à peintre. Et puis elle est copine avec Lautrec, avec Puvy de Chavannes, etc. Donc là, il s'installe 18 rue Cortot. C'est l'actuel musée Montmartre. On en avait parlé la dernière fois. Et dès 13 ans, parce que là-bas, à cette époque-là, les enfants sont mis au travail assez tôt. Donc dès ses 11-12 ans, sa mère, Suzanne, apprend à Maurice à dessiner. Et donc, il croque d'abord des petits personnages, et des petits personnages de sa rue, des petites personnalités et tout. Puis il acquiert un meilleur coup de crayon. Et malheureusement, à 18 ans, il va commencer à sombrer dans l'alcoolisme.
Donc, ils sont tous abonnés, quoi.
Ben oui, ben c'est que en fait, il y a énormément de bistrots partout. L'absinthe coule à flot. Il n'y a pas d'interdiction sur les alcools et les drogues. Il faudra attendre 1931. Donc eux, ils ont tout. Ils ont tout, Malo, à la portée de la main. Et du coup, c'est forcé que, surtout dans le milieu un peu artistique, où on aime bien les états un peu modifiés de conscience, on se la mette un peu, des fois, à la ramasse, un peu trop. Donc, en plus, on avait vu qu'il était bien copain aussi avec Modigliani pendant leur petite soirée de beuverie, là. Et du coup, il fait plusieurs séjours en asile psychiatrique. Donc, sa mère, elle est obligée de l'y mettre.
Ah ouais.
Et il fait des cures à Sainte-Anne. Et si cela a affecté gravement ses études, mais en fait, ça a contribué à révéler son génie de la peinture. Parce que finalement, sa mère, voyant qu'il n'était pas apte réellement à faire des études, trop de délirium très mince, et puis il n'y a pas cette option au bac. Donc, elle l'a mis à faire du dessin et de la peinture, et c'est là qu'il est devenu super bon.
Mais il a fini en psychiatrie à cause de sa dépendance à l'alcool ou parce qu'il avait déjà des problèmes un peu mentaux ?
En fait, je ne saurais le dire, mais j'imagine que oui, mais je pense déjà terrain héréditaire syphilitique, ça c'est sûr, et puis ensuite des démences, des crises de violence, et du coup voilà, il fallait qu'il soit interné
à 18 ans du coup,
ouais, mais tout petit, mais même sûrement avant. Donc en 1904 il passe 6 mois à Sainte-Anne de nouveau en psychiatrie, Et là, il tombe sur un médecin, le docteur Ettlinger, qui va l'encourager à vraiment se lancer pleinement dans la peinture. Donc vraiment un médecin bienveillant qui a compris tout l'intérêt de l'art-thérapie.
On y revient aussi, alors on en parle souvent et c'est chouette.
Bah oui, évidemment, évidemment. Et donc, avec les conseils de sa mère et des amants de sa mère, il devient très vite ultra doué. Et il a comme mission de traduire les ambiances de rue. Quand sa mère, elle, comme moi, elle est portraitiste aussi. Donc c'est là que naissent ses premières œuvres, on va dire, de jeunesse. Le chat sans queue, la guinguette. Et puis c'est là qu'il réalise ses premiers paysages. Donc dans une mouture complètement tradition impressionniste. De toute façon, il est en fin de lignée. Et ça semble tout à fait naturel, c'est ses maîtres du moment. Et puis, il devient rapidement ami, donc il se fait un copain qui s'appelle André Uther, qui est son ami de Beuvry, qui est peintre lui aussi, qui ne deviendra pas vraiment célèbre, mais qui par contre deviendra son beau-père. Donc c'est le fameux André dont on parlait, que Suzanne a peint tout nu, là, sur la Côte d'Azur, en plein épanouissement de sa sensualité.
Mais on est d'accord que c'était son copain.
C'était son pote qui est devenu son beau-père.
Dur.
Alors du coup, oui, pour vous dire, donc peut-être vous vous dites Suzanne Valadon, comment ça se fait qu'il ne s'appelle pas Maurice Valadon? C'est parce qu'au départ, il s'appelait Maurice Valadon, mais il a été reconnu à ses 8 ans par un amant de sa mère espagnol d'origine, Miquel Utrillo, qui était peintre et aussi un peu journaliste, critique d'art et tout ça, et qui a été suffisamment, j'imagine, enchanté et séduit par l'enfant et la mère qu'il lui a donné son nom. Donc c'est devenu Maurice Utrillo dès ses 8 ans. Alors, en 1910, là, c'est un tournant de sa petite vie d'artiste sur la butte, parce qu'il va faire la connaissance de Louis Libaud, qui est un marchand d'art, qui va le remarquer et qui va organiser sa première exposition publique. On va appeler cette période-là la période blanche, parce qu'en fait, les tableaux sont massivement blancs, et le blanc est réalisé avec des grosses couches de plâtre ou de blanc de zinc qui est écrasé au couteau. Et donc, il y a des paysages divers et des paysages où on dirait que le ciel est vraiment complètement blanc et les petites figures des personnages tout noirs qui se détachent à fond. Donc, il y a presque, si tu arrives à faire abstraction du décor qui reste assez finalement terne, on dirait presque des petits idéogrammes chinois, ces petits bonhommes. C'est super bien comment il fait les petits bonhommes très rapidement. Et donc, je peux vous dire aussi que donc, s'il n'avait pas de blanc de zinc, il pouvait utiliser du plâtre, parce qu'à Montmartre, il y avait des entreprises de fabrication de plâtre, des plâtrières, et donc il en avait sur place. Et c'est là qu'on peut voir des œuvres comme la rue Le Pic, le moulin de la Galette, la rue Saint-Rustique, Montmartre sur la neige. Si tu peux voir sur ton ordi, tu vas les voir apparaître. Et là, il y a vraiment la couleur dominante et ce blanc.
C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi?
J'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
Ensuite, ça va être la guerre. Donc 1914, normalement c'est la mobilisation, mais grâce à sa santé fragile, à cause de sa santé fragile, il est réformé par sa mère. Et c'est à cette période-là que, si certains vont mourir, Maurice va sortir de l'ombre. Ses œuvres vont devenir de plus en plus colorées, plus vives, donc beaucoup plus gaies aussi. Et je pense que c'est sûrement dû à sa présence joyeuse dans tous les bars très sympas de la butte Montmartre, en nombre, parce qu'il y en a partout. Hein. Donc alors lui, il fréquente le casse-croûte. J'imagine que c'est là qu'il déjeune. Il va ensuite boire un petit coup d'absinthe à la belle Gabrielle. Et puis le soir, c'est plutôt l'ambiance lapin agile avec le piano, quelques tapineuses au bar. Voilà. Alors les années vont passer vite. Alors il a une production Malo incroyable.
C'est, je vois ça un peu. Je me suis perdue dans ses œuvres et c'est vrai que c'est très, très chouette.
Bah, c'est très, très chouette. Et puis maintenant, notre œil moderne de 2024, ouais, les connaît par cœur, ces images. Mm-hmm. C'est vraiment les images typiques de la butte. Quoi. Quand on dit butte Montmartre, normalement, tout de suite dans la tête, il devient un paysage du trio.
Ça fait très carte postale. Bah
ben voilà. Alors justement, comme il va commencer à avoir un petit peu de sous, il va quitter la butte et il va aller d'ailleurs vivre dans son petit, dans un petit château là. Mais pour te dire que donc les années vont passer, il va produire. Et c'est rigolo que je parle de ces petits bonhommes comme des idéogrammes chinois parce qu'en fait il va bosser comme un chinois aujourd'hui qui reproduise ses tableaux parce que vraiment il a pas arrêté quoi. Il a produit ça comme une machine. Il dormait peu, il buvait beaucoup et il produisait sans arrêt. Donc du coup, ben, sa popularité va monter en flèche. Son talent est enfin reconnu et ses œuvres vont être exposées partout.
Du coup, pendant son vivant.
Ah bah oui.
Ah bah
oui,
parce bon, bah, plus, ça fait partie des chanceux.
Il est parti des chanceux. En plus, il va avoir une longue vie malgré son alcoolisme et sa cirrhose et sûrement sa syphilis. Donc en 1921, il va quitter Montmartre pour la région lyonnaise. Mais pour la butte, ben, les photos sont gravées dans son cœur, dans sa tête. Et donc, ça va continuer quand même d'être son thème de prédilection. Donc là, tu pourrais voir la rue Saint-Vincent. En plus, hop, spéciale dédicace à mon amoureux, mon Saint-Vince.
Et, Saint-Saint, ouais, bon.
Mais si. Et puis, bon, du coup, il y a cette fâcheuse histoire de pognon. Donc, on va y revenir deux minutes. Donc, en fait, si Valadon gagne bien sa vie, si André Uther peint mais vend pas beaucoup, et s'ils sont bien la mère et le beau-père de Maurice, il est clair que la poule aux œufs d'or,
c'est Maurice.
Donc, du coup, dans un premier temps, ils vont gérer sa fortune et ils vont aussi gérer ses crises d'alcoolisme et de démence en l'amenant régulièrement en cure pour qu'il aille bien. Enfin bon, bref, ils veillent sur lui parce que c'est Maurice qui le ramène à un certain niveau de vie et donc il est précieux. Manque de chance, Suzanne et André, qui ont en fait les yeux plus gros que le ventre, vont vouloir s'acoquiner avec Lucie Valor, qui va finir par les avoir en épousant Maurice Utrillo et en gardant seule ben, la gestion de la fortune de son mari, laissant tomber un peu à la rue, à se démerder maintenant tout seul, la mère et le beau-père, ancien copain tout jeune. Donc du coup, il va continuer à peindre, parce que là vraiment c'est son gagne-pain et il entretient d'ailleurs plutôt bien sa femme parce qu'ils vont avoir un petit château.
Ok.
Et alors bien sûr le bon Momo, toujours plagié, jamais égalé, parce qu'il fait partie de ces peintres qui évidemment non seulement ont été très prolixes et laissent derrière eux des centaines de toiles dont on ne sait peut-être même pas le nombre et dessins, mais voilà qui a été le plus copié et qui continue d'être le plus copié justement par les Chinois qui travaillent aussi vite que lui, sûrement peut-être même, je ne dirais pas aussi bien, c'est pas possible, mais en tout cas j'espère qu'ils y mettent du cœur parce que ces tableaux-là continuent de se vendre à moyen ou fort prix, je ne sais pas, sur la butte du Tertre. Et bien évidemment, c'est plus les peintres de Montmartre qui les font, mais c'est des produits qui arrivent d'Asie. Donc c'est très triste, mais il faut quand même le souligner. Et donc, on va revenir un peu quand même sur Maurice Utrillo, ambassadeur de Montmartre, œuvrant sans le savoir à sa préservation. Parce que je le dis parce que moi j'en suis, enfin je les aime aussi pour ça. Mais il est clair que en même temps qu'on met le doigt sur quelque chose de précieux, c'est très facile. On l'éclaire pour tous. Et ben du coup, cette chose-là peut être vite détruite. Tu vois, si tous les gens vont faire du camping à l'île de Pâques, ben en moins de deux étés, il n'y a plus d'île de Pâques. Hein, on est d'accord.
Tout à fait.
Quand Gauguin a mis en avant la beauté, la splendeur des îles Marquises, c'était le début de la fin. Ça annonçait que dès les premiers congés payés, les gens, où ils iraient? Aux îles Marquises, évidemment, ça a l'air tellement sympa. Donc, on oublie souvent, parce qu'on est dans un monde d'images maintenant préfabriquées et de collages Photoshop, mais on oublie qu'avant, les premières cartes postales du monde entier, qui les rendaient vivantes, parce que ça a mis longtemps aussi à être en couleur, les photos, c'était la peinture. Et c'était la peinture qui chatoyait et qui rendait vivant l'exotisme ou l'ailleurs ou les grandes villes où tu n'es jamais encore allé ou la mer que tu n'as jamais vue parce que les gens ne voyageaient pas. Ils mouraient là où ils étaient nés. Et d'ailleurs, souvent sans amertume. Hein. Mais au moins, ils avaient ça à se mettre sous la dent et sous les yeux comme connaissance du monde. Et du coup, c'est riche déjà pour ces raisons-là. Et puis maintenant, quand on voit avec quelle rapidité on salope la planète et que trouver un joli petit coin de verdure à peindre, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et je dis merci, 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 10 000 fois merci, 100 000 fois merci à Maurice Utriot pour, grâce à sa peinture, avoir préservé la butte Montmartre de tout saccage et immobilier parisien des époques qui ont suivi. Parce que finalement, la butte, mis à part ce sacré cœur horrible, quand on l'a derrière nous, en fait, Montmartre, faut toujours se mettre dos au Sacré-Cœur, parce que voilà, faut regarder Paris dos au Sacré-Cœur. Et sinon, la place du Tertre, elle est restée inchangée. Tous ces endroits-là sont restés inchangés à cause des gars comme Lautrec, cause des gars comme... Oui, grâce. Mais à cause, parce que aussi, certains, ils ont pas eu non plus cette reconnaissance, c'est-à-dire un amour immodéré, incontestable... mais qui leur appartient à eux en propre parce que quand ils ont voulu montrer la splendeur de leur cœur, personne n'a su vraiment en voir la profondeur. Mais pour ceux qui ont marqué leur temps et dont la peinture est exposée dans les musées, pour ceux qui nous offrent la nostalgie de ce paradis perdu qui était la Terre avant les grandes phases d'industrialisation, alors oui, merci. Et on sait maintenant à quoi faire référence. C'est-à-dire si on passait dans une... Si on prenait le contre-coup et qu'on voulait tout saccager pour se remettre dans le goût de cette époque, justement, la transition, c'est ça. C'est les années 1890, c'est-à-dire juste avant vraiment que l'industrie complète devienne moderne. Parce que dans les campagnes, en fait, si ça pouvait manger bien, les campagnes étaient riches. L'agriculture sylvopastorale, bien connue en France, parce qu'on a en fait plein de types d'agriculture, parce qu'on a un relief et des nivellations et des paysages merveilleux et différents en France. Donc on avait tout ce savoir-là. Et tout ce savoir-là, il a été d'une façon ou d'une autre transcrit pour l'éternité dans la peinture. Les champs de Van Gogh en sont la preuve, la forme des meules de foin, comment les gens faisaient pour ratisser quand il n'y avait pas de machine-outil, pas de pétrole. Ils l'ont fait, les gars, et ils en étaient heureux, et c'était beau, et la campagne était belle, et ils avaient à manger.
Et l'air était respirable.
L'air était respirable, il y avait des bistrots partout, on faisait la fête.
Des jolies maisons et pas des gros immeubles.
On savait faire de la musique aussi, on n'avait pas...
Puis il y avait un échange vraiment très spontané aussi, où on ne restait pas cloisonnés dans nos bulles chacun, nos conforts, nos idéaux.
On travaillait, on bossait ensemble. On bossait ensemble selon les saisons. Et tout ça, c'est dans les musées. Et moi, j'aimerais bien que tout ça sorte des musées pour de nouveau exister en vrai. Parce qu'on en a le témoignage et on sait comment faire.
Il y en a un comme ça par génération. Populaire.
Tendance. Époustouflant, brillant, génial.
Alors... il est mort. Donc comment il est mort? En cure, en cure de désintoxication. Il est mort. Donc il est mort à Dax en 1955. Il était en cure de désintoxication. À Dax, c'est les eaux, tu sais, qu'on boit et qu'on balance sur le corps à vive allure là. Il y était en cure avec sa femme Lucie. Donc je pense qu'il devait bien se pichetegorner en fin de vie tous les deux à la cool. Et il est enterré au cimetière Saint-Vincent. Donc le cimetière Saint-Vincent, Malo, c'est le petit cimetière qui reste et qui perdure des Montmartre 3 à Montmartre. Il est juste en face du Lapin Agile, et qui est l'endroit qu'il a peint et où il allait faire ses beuveries avec les Modigliani, Lautrec et autres Van Gogh.
C'est dingue que le prénom Vincent il revienne si souvent quand même.
Parce que c'est un très beau prénom, ça veut dire ils vainquent, ça veut dire ils ont gagné,
okay.
Ils ont vaincu.
Ok, des vainqueurs. Je ne savais pas.
Au pluriel, c'est-à-dire un Vincent vaut plusieurs qui vainquent.
Ceci explique cela.
Et, ouais. Et donc du coup, ben, maintenant on retrouve de l'utritoine. Il y en a aux USA et il y en a dans tous les bons kiosques de cartes postales pour vraiment pas cher. Donc vous aussi, vous pouvez vous offrir votre petit momo et n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous ajouter? Il est pas loin non plus de sa mère, qui elle, je l'avais pas dit parce qu'on n'avait pas fini la rubrique nécrologique de Suzanne Valadon, mais elle est enterrée au cimetière de Saint-Ouen, ce qui est dommage parce que franchement, elle devrait être à Montmartre aussi à côté de son fils. Donc elle est au cimetière de Saint-Ouen, au cimetière des pauvres gens. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est triste aussi. Et je voulais vous dire aussi que Maurice Utrillo s'est aussi beaucoup servi de cartes postales. Quand il a été habité dans la région lyonnaise et tout ça, il a beaucoup peint en se servant justement de cartes postales. D'où l'intérêt aussi des cartes postales qui circulaient. Les gens s'écrivaient beaucoup. Là, j'étais chez ma mère pendant une semaine. J'ai vu tout un tas de... Ma mère a gardé toutes les cartes postales qui lui ont été envoyées. Et comme elle a une très longue vie qui n'est pas finie, j'espère. L'importance du courrier, l'importance des écrits, d'écrire qu'on s'aime, d'écrire qu'on se soutient et d'envoyer une petite image inédite d'un coin du monde que la personne ne connaît pas ou d'un coin de là où on est en train de passer ses petites vacances ou sa petite cure de désintoxication et qui fera toujours bien plaisir à ses amis, à sa mère ou à sa grand-mère.
Les et toi, t'as accroché ma petite carte dans ton...
Ah bah bien sûr, j'ai accroché ta petite carte, évidemment. Évidemment que j'ai accroché ta petite carte.
J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses.
Oh, mais j'adore la petite.
Mais j'adore la petite.
Voilà, ben je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau peintre.
Vendredi.
Vendredi prochain, oui, pardon, excusez-moi. Ça, c'est l'agenda spécial de la radio. Hein. Il y a un espace-temps très particulier à Radio Diwa qu'il faut savoir respecter. C'est comme les matinées des comédiens qui commencent le soir. Des fois, on devient foufou. Mais bon, je vous embrasse. Merci de suivre cette chronique. Spéciale dédicace à Émilie qui la suit toujours régulièrement. Et puis, si vous êtes des nouveaux auditeurs, ralliez notre belle et joyeuse équipe. Je vous embrasse. Salut Malo.
Salut Carotte. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission remplie d'art et d'amour. Merci aussi de l'avoir suivi et à la semaine prochaine à l'écoute du 101.7. Et tous les épisodes de l'Artichaut sont à retrouver sur www.rdwa.
Oui, c'est encore René Magritte à l'appareil. C'est pour dire que l'Artichaut, c'est vraiment une émission merveilleuse qui donne la frite.